Imaginez que vous receviez une lettre d'un homme que vous n'avez jamais rencontré. Cet homme est en prison à Grasse et il est accusé d'être un fauteur de troubles. Plein d'autres accusations. Quelle serait votre réaction? Aujourd'hui, on va voir quelques versets dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, verset 21 au chapitre 2, verset 3. Les chrétiens de Colosse étaient en quelque sorte dans cette situation. Ils savaient que Paul avait conduit à la fois leur pasteur, Epaphras. Ils savaient également qu'Epaphras s'était rendu à Rome pour consulter Paul et qu'il n'était pas encore revenu. Entre-temps, les membres de l'église de Colosse reçoivent donc la lettre de Paul, qui nous intéresse aujourd'hui, par l'intermédiaire de Tychique et Onésime. Alors apparemment, les faux docteurs jetaient le discrédit sur Paul et semer le doute dans l'esprit des gens. D'où le choix de mon petit extrait vidéo. Pourquoi écouteriez-vous un prisonnier politique? Quelqu'un qui a été accusé de fauteur de troubles. Pourquoi peut-on faire confiance à ce genre de personne? Et donc Paul va marquer d'une pause la première partie de sa lettre, probablement pour donner quelques explications. Et au travers d'une lecture continue, nous allons découvrir ensemble, finalement, les trois aspects du ministère de Paul. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces trois aspects-là. Les trois aspects du ministère de Paul. Et on va lire les versets 21 à 23 déjà. Donc, Colossiens 1, versets 21 à 23. Je voulais lire tout d'un coup, puis après, ça nous serait obligé à relire les passages, donc je préfère le faire de manière continue. Hein. Vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Avant d'écrire quoi que ce soit de qui Paul est le serviteur, en fait, il résume à ses lecteurs, finalement, leur propre expérience spirituelle. En commençant par « autrefois, vous étiez étrangers, ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. » La plupart des gens qui nous entourent ont tendance à dire ou à plaider leur cause en disant « ouais, mais tu sais, je ne suis pas une si mauvaise personne que ça. J'ai quand même, dans l'ensemble, fait du bien autour de moi. Puis, si j'étais comme ceci ou si j'ai été comme cela, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Je ne suis pas parfait. Mais bon, j'ai quand même, etc., etc. » On connaît tous plus ou moins ce discours. Alors, sans être un voleur ou un assassin, nous avons tous été, à un moment ou à un autre, étrangers à Dieu. Autrefois étrangers. Étrangers à Dieu, étrangers à son amour, dans la personne de Christ. Nous étions ses ennemis, de fait, ennemis. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu disait « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ?» Et un léopard s'étache. Rien que le fait de vouloir se justifier soi-même prouve que nous n'avons rien compris à l'Évangile. La seule et unique personne qui peut nous justifier devant le trône de Dieu, c'est Jésus-Christ. Paul le dit clairement, parce qu'il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Lorsqu'on arrive à la fin de sa vie, ce qui compte, c'est d'être prêt pour la suivante. N'est-ce pas? Je trouve que c'est admirablement bien dit. En Christ, aucun reproche. En Christ, nous sommes justifiés. C'est le sens de la croix. C'est tout le sens de la croix. Dans sa lettre aux Romains, Paul nous fait une magnifique synthèse, finalement, de cette réalité. Au chapitre 5, verset 1 et suivant, il nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, aurait le courage de mourir pour un homme qui est bien. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il vous a maintenant réconciliés, dit Paul aux Colossiens, verset 22. Il vous a maintenant réconciliés. De nous-mêmes, il est impossible de nous réconcilier avec Dieu. Il a fallu que le Père prenne l'initiative de cette réconciliation. Il faut que la réconciliation dont nous sommes les bénéficiaires vienne de lui. Il l'a fait en envoyant son fils mourir sur une croix, c'est ce qu'on vient de voir là, dans la Sainte-Seine. Il est mort pour nous. C'est ce dont on se souvient. Et il est mort pour nous, alors que nous étions par nature en conflit avec lui, de notre nature, naturellement en conflit avec lui, ses ennemis. Et alors les faux docteurs, pour revenir sur ces faux docteurs, qui étaient à Colosse, niaient l'incarnation et enseignaient finalement que Jésus n'avait pas un vrai corps humain. Paul insiste donc sur le fait que c'est le corps physique qui fut crucifié sur la croix. Le but de cette réconciliation, c'est de nous mener à quoi ? À la mise à part, à la sainteté. Non seulement à la réconciliation totale et définitive devant Dieu, mais la propreté de notre âme. C'est impressionnant. La mise à part pour Dieu. Notre mise à part. Il nous a réconciliés avec lui-même pour que nous puissions vivre dans sa présence, partager sa vie, comme il l'écrit très clairement, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche. Sans reproche, ça signifie libre, libre de toute accusation. Je vous encourage à lire Zacharie au chapitre 3, qui va dans ce sens. Les gens peuvent porter des accusations contre nous, mais ils ne peuvent pas changer notre relation avec Dieu. Les gens peuvent porter des accusations comme nous, contre nous, mais ne peuvent pas changer quoi que ce soit dans notre relation avec Dieu. Alors la question n'est pas de savoir comment nous voyons nous-mêmes finalement. La question n'est même pas de savoir comment les autres nous voient. La question est de savoir comment Dieu nous voit. Aux chrétiens de Corinthe, Paul disait, dans 1 Corinthiens 4, il disait « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour ça que je suis justifié. » Pourquoi ? Parce que notre conscience, même renouvelée en Christ, n'est pas fiable. Ceux qui vous disent, et même dans nos milieux parfois, « Ah, moi j'ai bonne conscience, moi j'ai... » Ça ne veut absolument rien dire aux yeux de Dieu. À tes yeux peut-être, aux yeux de ceux qui t'entourent peut-être, mais aux yeux de Dieu ça ne veut rien dire. Parce que notre conscience est faillible. Elle est faillible. Nous sommes pécheurs, pardonnés par grâce. Tu peux avoir bonne conscience, mais devant Dieu, pouf. Alors il dit, je ne me juge pas moi-même. J'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, les objectifs des cœurs. Qu'est-ce qui se passait dans nos cœurs? à tel ou tel moment. Pourquoi nous étions dans cet état d'esprit et pas dans celui-ci? Pourquoi nous étions là et pas là? Pourquoi nous étions engagés là-dedans et pas là-dedans? Ça, c'est Dieu qui mettra en lumière ce qui est caché. Alors, la louange viendra de chacun, mais pas parce qu'on a envie de se lever et chanter et taper des mains. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. De la part de Dieu. On a tous tendance, à un moment ou à un autre, à regarder nos échecs passés, nos manquements, nos moments foireux. Peut-être une dépression, quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai que c'est difficile de regarder à la croix, mais c'est le seul endroit où on peut regarder et quelque part on peut cesser de regarder en arrière. Les faux docteurs essayaient certainement de promettre la perfection en faisant ceci ou cela. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et Paul, au contraire, il leur dit, « Mais non, vous êtes parfaits aux yeux de Christ, croyez-le. Ne cherchez pas plus, vous l'êtes, croyez-le. Vous êtes parfaits. Vous arrivez devant le trône de Dieu, vous êtes... Mais c'est ce qu'on fait là, quand on prend le pain et le vin. On se souvient de ce qu'il a fait pour nous, parce que nous sommes incapables de le faire nous-mêmes. Vous êtes parfaits. Waouh. Et puis, Paul semble jeter une ombre sur l'assurance de notre gloire future. Je cite le verset 23. « Si vraiment vous demeurez ferme dans la foi, fondée, établie pour ne pas être emportée de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Est-il possible à un croyant, une personne née de nouveau, une nouvelle création, de redevenir ce qu'elle était avant? Impossible. Je dis non. Les si de la Bible, vous savez, sont souvent déconcertants pour beaucoup de chrétiens. A priori, ces versets semblent indiquer que notre salut dépendrait de notre persévérance dans la foi. Non, ils dépendent de Christ. Pas de ta persévérance, pas de tes bons points et de tes A+, ou de tes bonnes notes. Il dépend uniquement de Christ. Laissez-moi vous rassurer. Si vraiment, sous-entendu à condition, ne suggère pas le doute ni une condition nécessaire pour conserver notre salut, il s'agit en fait d'harmoniser ce passage avec de nombreux autres passages qui affirment clairement que ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu pour l'éternité. On ne peut pas être assis dans les lieux célestes aujourd'hui, et demain assis ailleurs, et puis après-demain assis dans les lieux célestes, et puis après ailleurs. Non. On est assis dans les lieux célestes. Et dans ce verset, Paul utilise une image tirée de l'architecture que l'on peut discerner dans le texte original, c'est-à-dire une maison construite sur de bonnes fondations. Et quelles fondations ? Christ, Jésus le dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix ». Moi, je les connais, elles me suivent. Des fois en boitant, des fois en se cassant la figure, mais elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Si, et là j'emploie le mot « si » à dessein, si, nous sommes réellement sauvés et bâtis sur une fondation solide, Jésus-Christ. Alors nous continuerons dans la foi. Ce n'est pas possible autrement. Nous continuerons. Difficilement parfois, mais nous continuerons. Nous avons entendu l'Évangile, nous avons cru en Jésus-Christ. Il nous a sauvés. Tu es sauvé aujourd'hui, si tu es sauvé aujourd'hui, tu es sauvé demain. En d'autres termes, nous ne sommes pas sauvés en persévérant dans la foi, mais nous persévérons dans la foi parce que nous sommes sauvés. Vous voyez la différence ? Nous ne sommes pas sauvés en persévérant dans la foi, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous persévérons dans la foi. Et celui qui tient notre dépôt le tient jusqu'à la fin. Celui qui a créé, qui nous a fait de nous une nouvelle création, nous amènera jusqu'au bout. Alors il est donc nécessaire que tous ceux qui se disent chrétiens éprouvent leur foi, c'est vrai, examinent leur cœur pour être sûrs qu'ils sont des enfants de Dieu. Dans 2 Corinthiens 13, il est dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Souvenez-vous, dans 2 Pierre, « C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. Nous l'affermissons. En le faisant, nous ne broncherons jamais. » Dès qu'on commence à avoir du laisser-aller, dans nos vies, dans notre rapport avec le Seigneur, dans notre connexion avec lui, eh bien on bronche, on commence à perdre la joie, à perdre la paix. Ça, c'est le premier aspect du ministère de Paul, c'est celui de partager cet évangile. Premier aspect. On va passer au second aspect, la souffrance de Paul pour les non-juifs. On retourne en Colossiens. Et on va lire des versets 24 à 27. Et voilà ce qu'il dit. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alors, personnellement, je pense à un petit niveau ce que c'est que de souffrir pour un peuple. Je pense qu'à un petit niveau, mais un tout petit niveau. Souffrir pour un peuple au point d'être prêt à tout sacrifier, à tout engager, temps, énergie, argent, tout sacrifier. Tout, tout. Peut-être même la prison. Les faux docteurs de Colosse ridiculisaient probablement l'apôtre Paul pour altérer le message de l'évangile. Alors Paul va parler de sa joie. Paul répond à ce qu'on raconte sur lui en répondant, en disant « Mais je suis dans la joie. » Verset 24 « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour Christ, pour vous, pour vous. » Alors je ne sais pas si on arrive à réaliser ces paroles, hein, parce que Paul souffre pour la cause de Jésus, à cause de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est cet amour passionné pour vous et moi qui a fait que Christ aille jusqu'à la croix. Paul est prêt à souffrir pour ça. Il dit « Je ne suis pas honteux de mes souffrances, je m'en réjouis. » Finalement, il met un point d'honneur à ses souffrances, d'abord parce qu'il est chrétien. Et Paul a une autre raison de se réjouir. Il souffrait pour les non-juifs. Il ne faut pas oublier que Paul a été choisi par Dieu pour annoncer l'évangile aux non-juifs. En fait, il est prisonnier à Rome à cause de son amour pour les non-juifs. C'est pour cette raison-là qu'il est en prison à Rome. Au moment où il écrit cette lettre, il a été emprisonné parce que il annonce un évangile, l'évangile aux non-juifs. Il a été arrêté à Jérusalem, il a été arrêté sur la base de fausses accusations. Et les Juifs avaient écouté sa défense jusqu'à ce qu'il évoque les non-Juifs. Ils l'ont écouté, les Juifs étaient là. Acte 22, alors il me dit, le Seigneur, hein, « Va, je t'enverrai au loin vers les païens. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. À ce moment-là, mais alors ils élevèrent la voix et dirent, « À mort un tel homme !» Il ne faut pas le laisser en vie. C'est intéressant parce que les croyants de Colosse finalement, ben, ils avaient toutes les raisons d'apprécier Paul et d'être reconnaissants pour son ministère spécial pour eux. Il avait un ministère spécial pour eux. Et la troisième raison que Paul avait de se réjouir, c'est qu'il souffrait pour le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Autrefois, il avait fait souffrir l'Église. Maintenant, il souffre pour l'Église. Autrefois, il avait persécuté les chrétiens. Maintenant, il est persécuté pour les chrétiens. Vous voyez, les choses changent dans la vie des fois. Et donc, Il est conscient que ses souffrances ne sont rien, rien en comparable à celles de Christ. Il en est conscient. Mais les souffrances de Christ sont terminées, mais son Église, encore aujourd'hui, elle est là. N'est-ce pas? Elle souffre. Aujourd'hui, le corps de Christ souffre par la persécution. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur. J'ai été chargé de Dieu, par Dieu, de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, versets 25 à 27. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est une responsabilité. Hein. Si Paul avait cédé aux pressions des Juifs et n'avait pas accompli son ministère auprès des non-Juifs, beaucoup de souffrances auraient pu lui être épargnées. Il ne serait pas en prison. Est-il possible, ça c'est une question que je nous pose et que je me pose en même temps, est-ce qu'il est possible de renoncer à son ministère au profit de son confort et de sa sécurité personnelle? Est-il possible de renoncer à son ministère au profit de son confort et de sa sécurité personnelle? Je pense que c'est possible de tourner le dos à la mission que Dieu nous confie. Quel que soit notre statut, même un pasteur peut tourner le dos à cette mission. Le carriérisme, par exemple, entraîne de nombreux serviteurs de Dieu dans l'impasse, une impasse spirituelle. Il y a le job, il y a la paye, il y a la routine, il y a le système auquel tu te tiens, et pour en sortir ou simplement ne pas en être tributaire, il y a un prix à payer. Et souvent ce prix, c'est celui de la liberté. De la liberté. Dieu a chargé Paul d'une mission. J'ai été chargé par qui? Par Dieu. Paul n'a pas reçu son ministère d'une union d'église, ni d'une dénomination particulière. Dieu n'a pas reçu son ministère d'une œuvre missionnaire, ni de l'église locale de Colosse, même pas de l'église de Philippe qui le soutenait. Même pas. Non. Mais de Dieu. Et dans sa première lettre aux Corinthiens, on discerne un Paul qui n'est pas du tout tombé dans le travers du confort. Il écrit, je cite 1 Corinthiens 4, « Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Fidèle à quoi? Fidèle à Dieu. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas pour ça que je suis justifié. Faillibilité. Et Paul qualifie de mystère ce qu'il annonce aux non-juifs, parce que c'est un mystère. Pour nous, le mystère, c'est quelque chose d'obscur, d'étrange, parfois quand on emploie ce mot. Mais à l'époque de Paul, ce mot avait une autre signification. Les faux docteurs utilisaient ce mot, mystère, tu vois. Il faut être un initié pour comprendre les choses de Dieu. Mais en Christ, par le Saint-Esprit, il n'y a plus de mystère. Ce qui est caché est révélé. Ce mystère n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Les non-juifs sauvés au même titre que les juifs. Au même titre, pareil. Il n'y a aucune différence, dit-il, entre un juif et un non-juif. Aucune. Tout est nivelé. Dans Romains 10, il dit, il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, pour ceux qui ne l'invoquent pas. Que tu sois juif ou non juif, pour tous ceux qui l'invoquent. C'est un sacré message qui donne Paul. Il fallait oser à cette époque. Nous qui vivons dans un milieu à majorité chrétienne, bon, on a de la peine à imaginer l'impact d'un tel message. Mais pensons un instant à la joie des gens qui entendaient ce message. Pensons à la joie des païens qui entendaient une prédication comme celle-là. C'était quelque chose. Une église composée de nouveaux croyants qui n'avaient pas de passé religieux. C'était extraordinaire. Après le deuxième aspect, Paul donc en souffrance pour les non-juifs, le troisième aspect, Paul au combat
pour les saints.
Alors on va lire juste le passage. Colossiens donc 1. Colossiens 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Puis on va au chapitre 2 et on va lire les trois premiers versets. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu en Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors après Paul, prédicateur de l'Évangile, après Paul, prisonnier en souffrance pour les non-juifs, bien maintenant Paul est à genoux, il est dans le combat, il combat. C'est un combat, c'est une lutte. Et il dit au verset 28, c'est lui que nous annonçons. Paul se fait un honneur d'annoncer Jésus-Christ. Ce n'est pas sa propre personne qui met en avant, c'est Jésus-Christ. Alors, pas question pour Paul d'exalter ses propres réalisations. Hein. Verset 28, B, la suite. Donc, c'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Le terme parfait, vous savez ce que c'est ? Sous-entend la pleine maturité. C'est-à-dire que le point d'honneur que se fait Paul, c'est d'annoncer l'Évangile et d'amener des gens à la maturité spirituelle. À la pleine maturité, qu'ils soient des adultes en Christ. En fait, c'est ça son boulot. En fait, la maturité, c'est être complet, c'est être achevé. Et je crois que ce qu'on fait là, au niveau de l'enseignement systématique dans l'Église, ça aide, ça nous aide à avoir de la maturité. Parce que l'enseignement permet de nous enraciner dans la parole de Dieu. Quelles sont les preuves de cette maturité spirituelle ? Alors Paul le dit, verset 2, il dit « Afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Christ. » 1. Cœur consolé. 2. Unis dans l'amour. 3. Enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence. 4. Connaissance de Christ, mystère de Dieu. La consolation, mes amis, dans les épreuves difficiles de la vie, par Christ. Parce que quand tout va bien, ben on marche avec Christ. C'est logique, tout va bien. Pas d'épreuves, pas de tentations, ben ça va quoi. Par contre, quand l'épreuve commence à arriver et que la tentation arrive, là, on commence à rentrer, à avoir tendance à rentrer dans le compromis. C'est pas évident. Et être uni, c'est-à-dire soudé dans l'amour, pas n'importe quel amour, hein, cet amour de Christ, ce don gratuit, patient, qui ne soupçonne pas le mal, dans Corinthiens 13, un amour passionné pour son frère, sa sœur, un amour vrai, authentique, contraire de l'égoïsme, un amour qui donne plus que ce qu'il attend. Et celui qui n'a pas cette maturité est égoïste et finit automatiquement par provoquer des divisions. C'est logique. La preuve de cette maturité, c'est un amour conditionné par la connaissance de Christ. Je suis conditionné. L'amour que je te porte, c'est Christ qui le conditionne dans mon cœur. L'amour qu'on se porte les uns pour les autres, c'est Christ qui le conditionne. Ça n'a rien à voir avec un amour « ouais voilà, je t'aime bien, t'es sympathique ». Non, c'est un amour qui vient de Christ. N'est-ce pas ce que nous nous efforçons de faire dans notre communauté ? Et l'enrichissement évoque non pas l'argent, ni une belle structure, ni une belle carte d'activité, mais l'émerveillement devant les splendeurs de Christ. Nous sommes des mendiants spirituels, tout en étant des rois, mais nous sommes avant tout des mendiants. Nous avons des trésors cachés, C'est à nous d'aller les chercher, de les découvrir. Mais il y en a. Et Dieu veut que ses enfants aient... Nous ayons la connaissance de la sagesse. La sagesse et la connaissance plutôt. La capacité d'appliquer ce que nous avons compris. La connaissance qui suggère notre capacité à saisir une vérité. La sagesse est d'appliquer ce que nous avons compris. Ce que nous avons compris de l'Évangile, nous l'appliquons à notre vie. Ça, c'est pas évident, hein. Mais c'est ça la sagesse. C'est tout simplement ça. C'est pas le vieux sage ermite dans son coin qui va te dire la parole. Non, non. La sagesse est d'appliquer ce que Christ a fait pour nous, dans nos vies. L'appliquer. Et comme je dis, quand tout va bien, c'est presque à la limite simple de l'appliquer. Mais quand les choses vont un peu plus mal, là, c'est un peu plus difficile. Et c'est pour ces choses que Paul travaille jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'agonie, dit au verset 29. Quelle image ! L'image de la prière. Rien à voir avec une réunion où tout le monde est assis confortablement, dans le calme, en mangeant des biscuits. C'est très bien, hein ? Très bien, mais là, il est en train de parler d'agonie. Une prière qui est un combat, une lutte spirituelle. On revient juste quelques instants sur le verset 28. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Vous imaginez ? Une, deux, trois fois tout homme. J'étais étonné que Paul emploie ce terme trois fois. Trois fois d'affilée. Parce que Paul se préoccupe de chaque personne. Individuellement, c'est plus simple et moins astreignant finalement de prendre les gens dans leur globalité. Paul se préoccupe de chaque personne. Et il est en prison. Et il est en prison. Comment on fait pour se préoccuper des gens quand on est en prison ? Comment tu fais quand tu travailles 8 heures par jour ou 9 heures par jour ou 10 heures par jour pour te préoccuper des gens ? Comment on fait ? La prière. La prière solitaire peut se décliner de plusieurs manières. Pour les uns, ce sera devant la Bible à un moment spécial. Mais on est dans la course des fois avec les enfants, l'école, etc. Et puis le boulot, il faut arriver à telle heure. Et puis on a un truc à faire, on l'a pas fini, il faut le reporter. Pour d'autres, ce sera à l'écart, dans le bois, en marchant ou assis sur un rocher. Moi, je suis plutôt dans ce style. Mais quelle que soit la manière, tout ce qui compte, c'est que l'on arrive à la fin de sa vie et que nous soyons prêts pour la suivante, n'est-ce pas ? Parce que c'est de là que tout part. Et notre intérêt que nous portons les uns pour les autres, prier individuellement pour chacun, chacune. Prendre le temps d'évoquer les noms, les gens qui nous entourent, les individus dans notre église locale, les évoquer, les porter au trône de la grâce, les porter aux pieds de Christ. Même s'ils vont bien apparemment. Parce qu'apparemment tout le monde va bien le dimanche matin. Mais ça c'est apparent. Êtes-vous en paix avec Dieu ? J'aime bien la question qu'il pose dans ce film. Êtes-vous en paix avec Dieu ? Parce que finalement c'est ça l'essentiel, d'être en paix avec lui. Et tout le discours de l'apôtre Paul sur l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile que nous annonçons, que nous professons, et que nous ne pouvons pas acheter, parce que nous ne pouvons pas gagner le pardon de Dieu. Ce n'est pas possible, c'est gratuit. Il nous faut le demander. Et puis après, en Christ, il n'y a aucun reproche. En Christ, nous sommes justifiés. C'est tout le sens de la croix. C'est tout le sens de ces passages que Paul écrit à l'église de Colosse. Un, c'est cet évangile que Paul partage. Deux, c'est pour cet évangile que Paul est prêt à souffrir. Et trois, c'est pour cet évangile que Paul est à genoux. Et il prie. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier.